Je peux commencer quand même en vous disant que je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Recevez les salutations de nos frères et de nos sœurs de Trois-Rivières-Ouest, de la famille Ricard en particulier, qui m'a bien mentionné de vous saluer. Et vous savez, c'est toujours une joie puis un privilège lorsqu'on vient avec vous pour le message. Et ce qui fait ma joie, c'est de voir parmi vous nombre de visages qui étaient là dans les tout débuts de ma conversion. Il y a des personnes qui étaient là et qui sont encore là aujourd'hui. Puis c'est rassurant. On a chanté Dieu fidèle tantôt. On est vraiment appuyé sur ce Dieu fidèle. Mais ce qui nous encourage aussi dans notre marche chrétienne, c'est de regarder nos frères et nos sœurs qui, après des années et des années, font encore partie de nos milieux évangéliques. Hélas, malheureusement, ça arrive qu'il y en a qui quittent et qui s'en vont, qui s'éloignent du Seigneur, pas parce qu'ils changent d'église, mais parce qu'ils s'éloignent vraiment du Seigneur et on n'entend plus parler d'eux, donc on n'a plus de nouvelles. Mais ce qui est encourageant ce matin, moi, quand je suis rentré, j'ai vu plusieurs visages qui me connaissent depuis nombre d'années. Vous savez, à Trois-Rivières-Ouest, on serait fiers si je dirais que maintenant que je suis un peu plus vieux, j'apprécie aussi de voir des jeunes. Il y a des jeunes parmi nous ce matin qui peut-être ne me connaissaient pas trop, mais c'est bien de vous voir intéressés à écouter le message de Dieu. Parce que, comme c'était mentionné, dans les années dans lesquelles on vit aujourd'hui, de plus en plus le monde ignore la parole de Dieu, on éloigne. On s'éloigne de la parole de Dieu, puis on s'éloigne de cette vérité parce que ce qu'on va voir ce matin, c'est que, je ne sais pas si ça fonctionne bien, mais tout commence par l'humilité. C'était le sujet que je voulais vous apporter ce matin sur l'humilité. Tout commence par l'humilité. Et cette première humilité que l'homme et la femme ont besoin de connaître, c'est celle de s'humilier devant Dieu puis de se reconnaître comme un pécheur, perdu, méritant d'être privé de sa gloire pour l'éternité. Mais aujourd'hui, trop de gens cherchent à plaire à Dieu par leurs méthodes, par leurs idées, un peu semblable à Caïn, que vous pouvez voir au tout début de la Genèse, au chapitre 4, où Caïn essaie de se présenter devant Dieu en offrant de son propre sacrifice, de ce qu'il a fait, en croyant que Dieu va accepter quelque chose qui vient de l'homme. Et on sait très bien que pour le salut, la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a point de salut en dehors de qui? De Jésus-Christ, pas de mes efforts. Même si je mène une bonne vie, même si je suis aux yeux du monde une personne honorable, il reste qu'aux yeux de Dieu. Si on n'a pas Jésus dans notre cœur, puis si on ne lui appartient pas, on reste une personne perdue, privée de sa gloire pour l'éternité. Aujourd'hui, on voit sur les journaux, puis un de nos frères l'a mentionné, durant cette semaine, où ce que c'est qu'on a élevé un homme en l'appelant maintenant « mon Seigneur ». Et c'est un peu bizarre parce que souvent, les personnes s'élèvent eux-mêmes ou ils sont élevés et ils reçoivent une gloire en réalité qui ne devrait pas leur appartenir à eux, mais qui devrait appartenir seul au Seigneur Jésus, cette gloire. Mais vous savez, l'être humain cherche partout pour trouver à propos de sa gloire. Ah, il y en a un autre? Ah, on a changé. OK. Donc, pour aller avec, ça va fonctionner. L'être humain a besoin quand même de sentir ce réconfort, de sentir qu'il est quelque chose pour Dieu. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui cet être humain chercher tout cela. Mais vous savez, le péché et la rébellion dans notre monde a troublé. A donné des troubles dans la vie entre Dieu et l'homme, parce qu'il y a eu cette rupture, cette brisure à cause du péché, et aussi entre les hommes. Parce qu'on voit très bien aussi, comme je l'ai dit, le cœur de Caïn qui a tué son frère, Abel. Mais notre monde veut aussi avoir une assurance que, peu importe les épreuves qui leur arrivent, eh bien, tout va finir bien. Mais eux, malheureusement, qui ne connaissent pas le Seigneur, et je ne sais pas pour vous ce matin dans quelles conditions vous êtes, mais je veux, au tout début, avant de vous parler de l'humilité, je voudrais vous parler de cette humilité, de venir aux pieds de Jésus et de vous reconnaître dans l'état dans lequel vous êtes ce matin. Moi, je ne connais pas tous vos circonstances, je ne sais pas à quel degré vous êtes en relation avec Dieu, mais c'est important ce matin que vous fassiez cette mise au point parce que un jour, ce que vous allez décider du fait que vous allez recevoir le Christ comme votre sauveur va être une chose définitive pour votre vie future. Aujourd'hui, on essaie de dire au monde que faut pas trop s'inquiéter, après la mort, tout le monde meurt, puis on reste tous dans nos tombes et tout finit là. Mais si on se fie au monde, eh bien oui, le monde peut penser cela. Mais si on se fie à Dieu, Dieu nous dit qu'après la mort, il y a quelque chose qui se passe. Et puis c'est quelque chose de vrai et puis de réel. Et on n'a pas à se fier au monde, mais il faut se fier à ce que Dieu dit. Et Dieu nous dit que nous sommes dans un état de péché puis de rébellion contre lui. Et le seul moyen pour avoir ce raccord avec Dieu, c'est par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il est venu ici-bas, il a porté vos péchés sur la croix du calvaire, c'est lui qui a payé la dette de vos péchés. Il vous invite, veux-tu accepter le fait que je sois mort pour toi, que j'ai livré ma vie pour payer la dette de tes péchés? Est-ce que tu veux accepter ça? Et si vous dites, oui, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, que je suis perdu, toute ma vie, c'est un désastre, et maintenant, je veux te la livrer. Et si vous faites ça ce matin, si vous dites, oui, Seigneur, entre dans mon cœur, prends possession de ma vie, eh bien, le Seigneur va entrer dans votre vie, et il va changer votre vie, il va la transformer. Et dans les temps d'épreuve, dans les temps de maladie, ou qu'il y ait quelque chose dans le travail ou dans les relations interpersonnel, nous avons des promesses dans la parole de Dieu qui vraiment sont nos préférées et elles nous encouragent à travers la parole de Dieu. On dirait que ça ne marche pas tout le temps, mais je vais continuer quand même parce que moi, je me dis que même si vous ne voyez pas les textes, je veux que vous écoutiez mes paroles parce que c'est important pour nous. Il y a des promesses dans la parole de Dieu qui sont nos préférées. Quand ça va mal, on est à genoux, puis on sent qu'il n'y a plus rien qui va dans notre vie. Qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, j'espère que vous vous tournez à la parole de Dieu pour vous accrocher, puis que vous cherchez des vérités qui vont vous encourager. Au lieu d'être un sujet de chute quand ça va mal, au lieu d'être un sujet de découragement, eh bien, acceptez la parole de Dieu. Dans 2 Samuel, au chapitre 7 et verset 28, je vous le cite, David dit ceci: « Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu, et tes paroles sont vérité, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. » Oui, les promesses de Dieu sont réconfortantes, parce qu'il dit toujours la vérité, il est la vérité. Et quel bonheur de savoir que Dieu dit toujours la vérité pour chacun de nous. Mais vous savez, aujourd'hui, dans notre monde, les dirigeants des grandes religions qui nous entourent ne disent pas toujours la vérité. Vous savez, depuis un certain temps, on entend beaucoup de dirigeants qui disent que la Bible est remplie d'allégories. C'est comme des histoires qui sont racontées là-dedans. Et puis que si vous prenez la Bible, eh bien, il n'y a pas de vérité absolue. C'est cela qu'on nous enseigne maintenant dans les chefs religieux de notre monde aujourd'hui. Mais vous savez, la parole de Dieu nous dit en Matthieu, au chapitre 11 et le verset 25, « Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélées aux enfants. » Et vous savez, ce matin, si on parle de l'humilité, il faut venir à lui humblement, parce que c'est humblement que Dieu va nous parler. Ce n'est pas parce qu'on va se prendre pour une autre personne qu'on va dire que Dieu nous parle plus à nous, non. Dieu nous parle lorsqu'on vient à lui dans l'humilité. Sa parole contient des promesses afin que l'on puisse les réclamer pour nous. Il y a certaines qui sont inconditionnelles. Vous pouvez voir dans Genèse au chapitre 12 et au verset 7, lorsqu'a Dieu apparu à Abraham, et puis il lui a dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Ça, c'était une promesse inconditionnelle. Dieu a accompli sa parole, et le peuple a eu ce pays comme en promesse de postérité. Mais la plupart des promesses de Dieu sont conditionnelles. Il y a des promesses qui sont conditionnelles, et il y en a une que vous connaissez certainement, dans 2 Chroniques, au chapitre 7 et le verset 13, qui dit quoi? « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, et aujourd'hui on parle beaucoup de Dieu, on en parle dans toutes les religions, mais qu'est-ce qui fait la différence d'avec nous? Eh bien, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. » C'est la priorité, hein? S'humilier devant Dieu. Dieu n'aime pas celui qui est orgueilleux. Il aime celui qui s'humilie, qui prie et qui cherche sa face. Et puis j'espère ce matin que c'est un désir pour chacun de nous que nous cherchons la face de Dieu. Est-ce que vous cherchez pour vos vies la face de Dieu? Est-ce que vous la cherchez vraiment? Eh bien, si vous la cherchez, vous allez faire la fin de ce verset qui dit qu'il se détourne aussi de ses mauvaises voies. Et Dieu promet que si son peuple fait cela, s'il s'humilie, qu'il prie, qu'il cherche sa face et se détourne de ses mauvaises voies, l'Éternel dit, « Je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Il y a des promesses qui sont inconditionnelles, mais il y en a d'autres qui sont aussi conditionnelles. On l'a maintenant au tableau. Ils sont reliés dans 1 Pierre au chapitre 5, le verset 6 et 7. Vous pouvez le lire avec moi. 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 et 7, ça dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Nous avons une promesse conditionnelle qui reçoit rarement l'attention qu'elle mérite. » Il y a deux propos à propos de cette promesse. Premièrement, les gens la comprennent souvent mal. Et deuxièmement, c'est qu'ils n'aiment pas la condition qu'ils s'y rattachent. Dieu a promis qu'il allait nous élever au temps convenable. Et vous savez, c'est dans le cœur humain de désirer s'élever. Je ne sais pas pour vous si c'est normal, hein? Mais dans mon cœur, si je ne fais pas attention, hein, j'ai toujours ce désir de m'élever au-dessus des autres. Mais la condition pour que le Seigneur nous élève un jour, c'est premièrement, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Trop souvent, nous nous arrêtons à la fin du verset 6 afin qu'il nous élève en oubliant le tout début de cette promesse qui est de nous humilier nous-mêmes. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire, être élevé? Qu'est-ce que cela veut dire? Élevé a le même sens qu'être exalté, honoré, améliorer le rang de quelqu'un. Et vous savez, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. On voit des exploits athlétiques, hein, des personnes qui sont des sportifs et puis qui reçoivent des hommages, des louanges. Il y en a d'autres que ce sont des percées remarquables, que ce soit dans la médecine ou dans des découvertes vraiment spéciales, d'autres des années de service ou un sacrifice pour le bien des autres, qui est l'aide aux démunis, des sauveteurs ou des pompiers. Cette reconnaissance peut être une augmentation de salaire, une éloge publique ou une responsabilité supplémentaire qui arrive. Mais pour nous, ça peut être aussi que l'on reçoit un peu plus d'amour et d'admiration qui nous vient du Seigneur. Dans Matthieu, chapitre 25, et le verset 21, vous connaissez très bien cette histoire. Lorsque cet homme, ce maître, donne à ses serviteurs des possessions, puis leur dit de faire valoir ces choses qu'il leur a remis entre leurs mains. Et dans Matthieu 25, et le verset 21, il est écrit, « que ce maître, en revenant, dit à un de ses serviteurs, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Mais pourquoi est-ce que ce serviteur a reçu cet éloge? Parce qu'il avait reçu 5 talents, puis qu'il l'a fait fructifier, puis il en a eu un 5 autres? Eh bien non, ce n'est pas cela. Si vous remarquez bien la phrase, ça dit « c'est bien, bon et quoi? » Fidèle serviteur. L'éloge ne vient pas du résultat, mais de la fidélité. Et notre Père céleste est vraiment à l'origine de l'élévation des autres. Notre élévation n'est pas pour être au-dessus de nos frères et de nos sœurs. Il y a des fois qu'on lit le texte et on s'imagine que Dieu nous a promis que si on s'humiliait, on allait être élevé. Est-ce que vous pensez que le Seigneur va nous élever au-dessus de nos frères et de nos sœurs? Non, l'élévation que le Seigneur fait de chacun de nous, c'est que nous sommes appelés de lui ses enfants. Ses frères, ses enfants, parce que le contraire, ça serait contraire à la parole de Dieu. Si on lit dans Galates au chapitre 5 et puis le verset 13, vous allez voir qu'il est écrit dans les Écritures que nous sommes appelés, non pas à nous élever au-dessus de nos frères, mais nous sommes appelés à quoi? À être des serviteurs et des servantes de nos frères et de nos sœurs. Et dans Philippiens au chapitre 2 et puis le verset 3, on est exhorté à regarder les autres comme étant, quoi? Au-dessus de nous-mêmes. Et vous savez, il ne faut pas être hypocrite. Il y a des fois que c'est bien plus facile pour nous de nous placer au-dessus de nos frères et de nos sœurs. C'est bien plus facile pour moi à cause de ma tendance que j'ai héritée de mon père Adam, mon premier père Adam, qui m'a transmis à l'intérieur de mon être ce désir de toujours regarder comme si moi, je suis quelque chose pour Dieu de plus grand que mes frères et que mes sœurs. Alors que le Seigneur puisse nous aider à faire attention à cela. Parce que vous savez, notre élévation, c'est vraiment d'être appelé enfant de Dieu, puis c'est ça la chose la plus importante. Mais mis à part toutes ces choses, les formes d'appréciation que le Père peut nous donner, il y a d'autres façons que Dieu veut élever ses enfants. Lorsqu'il y a une prière qui est exaucée, ça c'est une forme d'élévation. Vous savez, nous péchons, nous échouons, chacun de nous, souvent dans notre vie. Et pourtant, nous pouvons nous approcher, comme on l'a fait ce matin dans la première partie. Nous pouvons nous approcher du Dieu Tout-Puissant, ce souverain Seigneur, et puis lui offrir nos offrandes, nos louanges, comme on a entendu dans la première partie. Nous lui apportons aussi nos requêtes et nos besoins. Et puis, notre Père Céleste, ce grand Dieu, il entend notre appel, il entend nos prières et il nous répond, nous qui sommes si souvent indigne, mais il faut faire aussi attention, parce que quelquefois, on est trop souvent porté à dire qu'on est des indignes, et ça devient une fausse humilité. Moi, je peux vous dire, je suis indigne, puis juste parce que je veux que vous me preniez pour un pauvre petit garçon. Oui, c'est vrai que nous péchons, mais Jésus est celui qui nous a rendus dignes. Vous savez, lorsqu'on est venu ce matin, si on aurait dit, qui est-ce qui est digne de venir adorer Dieu si ça vient de nous-mêmes? J'espère qu'il n'y a pas personne qui aurait levé la main. On est tous venus, à cause de qui? À cause de lui. Parce que lui, il nous a rendus dignes, honorables, présentables devant Dieu. Pourtant, peut-être que dans la semaine, on n'a pas toujours été présentables devant Dieu. Peut-être qu'il y a eu de ces moments où on aurait pu se trouver une excuse et dire, je ne peux pas me présenter devant Dieu un matin et aller le louer, je ne suis pas présentable. Mais il n'y a jamais d'excuse. On est toujours présentable parce qu'on est toujours couvert par le sang précieux de Christ qui lui seul nous rend digne. Alors, c'est une façon merveilleuse de nous élever. Il faut le réaliser. Jésus est celui qui fait que je peux prier Dieu, que je peux le louer, que je peux l'adorer. Mais vous savez, malheureusement, on est trop souvent occupé par nos choses matérielles, tellement préoccupé que nous ne réalisons pas toujours cet honneur. Parce que quand vous avez franchi cette salle ce matin, vous avez eu un grand honneur, celui d'entrer dans la présence de Dieu, d'entrer dans sa communion, de pouvoir ouvrir votre bouche pour lui dire, « Seigneur Dieu, merci, parce que tu m'as pris des ténèbres et tu m'as emmené dans la lumière. Tu m'as pris dans les péchés et maintenant tu m'as lavé et je suis maintenant plus pur à cause vraiment du sacrifice de Jésus. » Alors les réponses, et c'est une façon merveilleuse, et puis les réponses de Dieu à nos prières viennent sous forme d'une augmentation de puissance et d'énergie. Lorsqu'on vit des combats, lorsqu'on a des épreuves et que nous semblons manquer de force et de persévérance, eh bien, il est là. On l'a lu ce matin, hein, puis j'ai aimé beaucoup le cantique. Hein? Dieu fidèle, tu ne changes pas. Hein? Moi, je peux vous le dire, hein, depuis 1962, Dieu ne change pas, il est le même. Hier, aujourd'hui, et il le sera encore éternellement. Jésus est le même. Il est tellement merveilleux. Puis c'est merveilleux d'avoir ce contact, cette communion avec lui. Et nous en avons tellement besoin pour accomplir sa volonté. Et j'espère que ce matin, c'est notre désir. On est venu pour l'adorer, pour le louer, puis maintenant on veut entendre. Seigneur, comment est-ce que je peux te servir? Eh bien, où serions-nous ce matin si on n'aurait pas un tel sauveur? Et ce matin, où en êtes-vous dans votre vie spirituelle? C'est important de le savoir. Vous n'avez pas à me répondre à moi, mais vous avez à répondre au Seigneur. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie spirituelle? Est-ce que vous êtes en bonne relation avec ce Dieu qui vous aime, avec ce Dieu qui pardonne, qui est prêt à vous relever? Peut-être que vous dites, « Ah, oh, mais je suis dans une chute terrible, puis ça me dépasse, je suis en train de caler. » Mais mes chers amis, la main de Dieu est toujours tendue. Il te tend la main, puis il veut te relever, parce que c'est son désir. Il veut que nous nous tenions debout devant lui. Mais comment? En toute humilité, parce qu'il veut que nous nous présentions devant lui en toute humilité. Et combien le Seigneur désire vraiment cette relation personnelle. C'est quelque chose d'important pour lui. Il nous invite à venir pour le louer, pour l'adorer. Et combien nous devrions être honorés que le Créateur de l'univers veuille passer du temps avec nous. Lorsque vous êtes chez vous, que vous priez, est-ce que vous sentez que vraiment vous honorez Dieu et que Dieu est honoré, que vous êtes en communion dans sa présence? Je ne sais pas pour vous si vous êtes comme moi quelquefois, mais vous savez, mon pauvre petit moi n'aime pas être humilié. Ça nous blesse, ça nous attaque. Mon moi n'aime pas être humilié. Et quelquefois, au lieu de m'occuper de cette communion avec mon Père Céleste, je suis préoccupé par mon moi. Parce que j'ai été blessé par un frère ou par une sœur, par une parole qui a été dite, qui a été lâchée peut-être à tout hasard comme cela, mais moi, ça m'a blessé, ça m'a humilié. Mais vous savez, on est loin de ressembler à ce Jésus. Il y a ce beau cantique que j'aime beaucoup, mais qui en même temps est un couteau pour moi et qui me fait quand souvent je me juge. Vous connaissez très bien ce cantique. « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. » J'espère que c'est votre désir ce matin. Hein? Vous voulez ressembler à Jésus? Vous voulez lui ressembler? J'espère que oui. Mais comme nous sommes loin de ressembler au Seigneur Jésus, lui qui s'est humilié, il a quitté pourtant ce gloire qu'il avait auprès de son Père, lorsque tous les anges étaient là, qu'il l'entourait et qu'il recevait cette gloire. Il a quitté cette gloire et il est venu ici-bas comme un simple enfant, n'ayant pas une belle maison, comme peut-être plusieurs parmi nous avons eu comme accueil. Non, Il est venu dans une étable, comme un simple enfant très pauvre. Et durant toute sa vie, lorsqu'il a vécu, il a connu non pas la richesse humaine, au contraire, il s'est humilié plus bas que les hommes. Et étant dans ce monde, on l'a méprisé, on l'a rejeté, on a dit toutes sortes de choses contre lui, on ne l'a pas aimé. Mais j'espère que nous, ce matin, nous qui connaissons le Seigneur Jésus, hein, j'espère que nous l'aimons, parce que Jésus s'est humilié, et puis ça me donne toute une leçon à moi. Hein. Je veux ressembler à Jésus, mais alors qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, je dois m'humilier. Je dois accepter aussi qu'on m'humilie quelquefois, parce que peut-être que c'est le Seigneur qui se sert de mes frères et de mes sœurs pour m'humilier, afin que je puisse être présentable devant lui et que je devienne de plus en plus semblable à mon Maître. Dans Romains au chapitre 8 et le verset 29, il est dit que c'est le moyen de Dieu, c'est de nous transformer à la ressemblance de son Fils. Où est-ce que tu en es ce matin? Est-ce que tu t'approches de plus en plus à la ressemblance du Christ? Ou est-ce que tu es encore faisant partie de ton ancien moi, que c'est lui qui veut vivre constamment en toi? Vous savez, on a cette lutte, nous, chrétiens, dans Romains au chapitre 7, si vous ne le savez pas, vous allez le lire, vous le relirez chez vous, hein? On a constamment ce combat de la chair à l'intérieur de nous. Et vous savez ce que ma chair veut? C'est m'élever. Mais ce que le Christ veut, lui, c'est que je m'humilie. Et si je ne le fais pas de moi-même, eh bien, le Seigneur va peut-être se servir de mes frères, de mes sœurs pour m'humilier, parce qu'il veut que je devienne de plus en plus semblable à lui. Et mes chers amis, je vais être franc avec vous ce matin. Si vous n'avez pas cette transformation qui fait en sorte que vous devenez de plus en plus semblable au Christ, eh bien, vous n'avez pas reçu le vrai Évangile. Parce que le vrai Évangile, c'est de vous reconnaître vraiment dans l'état dans lequel vous vous trouvez, et puis d'accepter que Christ change votre vie, qu'il la change, et ça presse. Seigneur, change nos vies. Vous savez, on dit souvent au monde, lorsqu'on leur prêche l'Évangile, « Ah, nous ne pratiquons pas une religion, mais nous avons quoi? Une relation avec Dieu. » Eh bien, c'est ma prière. Parce que vous savez, quelquefois, malheureusement, et c'est l'inquiétude de tout prédicateur, lorsqu'il y a des personnes qui disent qu'ont accepté le Seigneur après un message, qui disent qu'ils ont été touchés, eh bien, notre inquiétude, c'est qu'ils ne puissent pas juste accepter une religion évangélique, mais qu'ils acceptent celui de qui l'on parle. On n'est pas en train de parler d'une religion, même la religion chrétienne, comme le monde aujourd'hui l'appelle, mais on parle plutôt de cette relation avec une personne, une relation intime et personnelle. Et j'espère que votre communion, votre relation avec Dieu n'est pas juste une relation du dimanche matin. Parce que malheureusement, ça arrive dans certains milieux évangéliques. Il y a des personnes qui viennent juste le dimanche matin pour se réunir parce qu'ils se sentent bien entourés des chrétiens. On chante des beaux cantiques. Ils écoutent la parole et c'est très beau. Mais ça ne change rien dans leur vie. Alors, c'est important pour moi de vous dire ce matin, vérifiez dans vos vies, est-ce qu'il y a un changement, une transformation depuis le jour où tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel? Est-ce qu'il y a cette transformation, ce changement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de vivre pour toi, eh bien maintenant tu vas vivre pour lui. Au lieu de vivre pour mon propre intérêt, je vais vivre pour son propre intérêt à lui. Parce que c'est la chose vraiment la plus importante. Et c'est ma prière pour chacun de nous. Vous savez, l'élévation suprême va venir un jour lorsque le Seigneur va nous prendre ensemble. Nous serons avec lui enlevé pour aller au ciel. Et là, ce sera quelque chose de merveilleux à cet avènement du Seigneur. J'espère qu'on l'espère. Hein? J'espère qu'on attend le Seigneur. Est-ce que vous l'attendez? J'espère que oui. Hein? Mais si vous l'attendez, qu'est-ce qui arrive dans nos vies? Eh bien, on lit la parole. On demande à Dieu de nous parler, puis de changer nos attitudes, de changer nos habitudes, de changer nos paroles envers nos frères puis nos sœurs, nos réactions qui, quelquefois, sont le fruit de notre chair. On lui demande, « Seigneur, transforme-moi. » Vous savez, il y a trois choses qu'il faut retenir de ces promesses divines que nous avons dans la parole de Dieu. Elles sont conditionnelles, premièrement, à notre humilité devant Dieu. Notre Père céleste, en tant que maître de notre vie, il mérite notre vénération, notre respect, notre soumission. En d'autres mots, il mérite notre humilité. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que le Seigneur, c'est vrai, il veut nous élever. Il veut nous élever. Mais si nous nous élevons nous-mêmes, cela lui devient impossible. Parce qu'il est écrit dans Proverbes au chapitre 8 et le verset 13 que l'orgueil est quelque chose qu'il a en horreur et qu'il hait. Et dans Proverbes 29, il est écrit que l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Un jour, on est venu devant lui en toute humilité en lui disant, « Seigneur Dieu, je suis perdu. Je suis perdu. Je ne mérite pas d'aller avec toi pour l'éternité. Je mérite juste d'être puni, de m'en aller loin de toi. Mais parce que tu m'as aimé et parce que tu as envoyé ton Fils, eh bien, humblement, j'accepte ce salut merveilleux que tu m'offres. Et la troisième chose, il nous faut nous attendre à Dieu en croyant qu'il nous élèvera à sa manière et au bon moment. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans votre vie, mais moi, à travers ma vie, je l'ai remarqué que lorsqu'on essaie de s'élever nous-mêmes par nos propres moyens et que nous n'attendrons pas le temps de Dieu, eh bien, trop souvent, nous manquons d'amour les uns envers les autres. Si je ne suis pas rempli de l'amour du Seigneur et de cette humilité, eh bien, je vais manquer d'amour envers mes frères et mes sœurs. Et parce que je vais penser de m'élever, eh bien, je vais rabaisser mes frères et mes sœurs. Je vais les rabaisser parce que je veux m'élever. Mais cela ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas cela que le Seigneur veut de nous. Celui qui s'élève sera abaissé, nous dit la parole de Dieu. Et vous savez, il nous reste que quelques minutes. Dieu élèvera celui qui est humble. Mais quels sont les obstacles à ces bénédictions que Dieu veut nous donner? Parce que vous savez, le fait que Dieu va nous élever si on s'humilie, c'est une promesse, une bénédiction. Mais qu'est-ce qui va empêcher tout cela? Qu'est-ce qui sera un obstacle? Eh bien, il y en a sept. Pourquoi s'élever plutôt que d'attendre que Dieu lui-même nous élève? Alors, le premier obstacle que nous découvrons, c'est l'impatience. L'impatience. Ah, Seigneur, il faut que je m'élève tout de suite, il faut que je sois élevé tout de suite. Non. Il est écrit, hein, vous l'avez lu, il va nous élever quand? Au temps convenable. Pas en mon temps à moi, parce que moi, j'aurais voulu que ça se fasse bien avant ça. Non. C'est au temps convenable. Quelquefois, on est impatient. Et ça fait qu'au lieu de regarder sur la toute-puissance de Dieu pour nous élever, on regarde sur les circonstances. Et quelquefois, parce qu'on n'est pas élevé, parce qu'on croit qu'on ne reçoit pas l'hommage qu'on devrait recevoir, peut-être même dans nos milieux évangéliques, eh bien, ça va nous décourager. Parce qu'au lieu de regarder au Christ, on est en train de regarder à ce qui nous procurait quelque chose à nous. Alors, l'impatience. La deuxième, l'insécurité. On est insécure, on ne sait pas si... C'est comme si on doute de la parole de Dieu. Pourtant, on l'a chanté, puis je vous l'ai dit tantôt, hein? Dieu y est fidèle. Et puis, il l'a promis. Si tu t'humilies, eh bien moi, je vais t'élever. La troisième chose, c'est une crise d'identité. qui nous parle de notre valeur. Et vous savez, dans nos milieux, quelquefois on essaie de s'élever parce que on se dit, ah ben, je mérite cela, je mérite d'être élevé. L'endroit où ce que c'est que je vis, mes possessions, ma belle auto, mes marques de vêtements. Vous savez, je vais vous l'avouer ce matin, hein, ça m'arrive quelquefois d'avoir des vêtements griffés. Vous savez d'où, hein? Du village des valeurs. Vous connaissez cette place? Est-ce que cela va faire en sorte que ça m'humilie? Vous savez, si ça m'humilie, bien peut-être que j'ai encore une leçon à apprendre. Hein? Parce que vous savez, ce n'est pas le vêtement extérieur qui fait l'homme intérieur. Parce que vous savez, notre apparence peut avoir une belle apparence. Parce que si ma valeur, c'est pas ce que Dieu a fait de moi, si c'est à cause de ce que je porte, ou ce que je suis, ou ce que je possède, je suis en train de passer à côté. Et puis j'ai un obstacle qui est grand à franchir. Ça peut être à cause d'une crise d'identité. Mais vous savez, le fait d'être enfant de Dieu doit tout surpasser tout cela. Ce n'est pas ma marque de vêtements, puis ma marque d'auto, ou quoi que ce soit, qui est ma valeur. C'est le prix que Christ a payé pour moi. C'est le Christ. Le Christ a payé pour moi le grand prix. Puis quand je pense à ça, hein, Dieu prend son propre Fils, celui qui faisait ses délices de toute éternité. Il le prend et puis il l'a donné pour moi, un coupable comme moi, un pécheur comme moi, puis aussi comme vous. Alors, c'est quoi votre valeur? Vous valez le prix du sang de Christ. Alors, c'est ça qui fait ma valeur aujourd'hui devant vous. Ce n'est pas parce que je suis mieux que vous. Je ne suis pas mieux que vous. Mais ma valeur pour moi, ben je l'ai en Christ. Il y a une autre chose qui va être un obstacle au fait que Dieu va me bénir. Ça va être l'ignorance de ses voies. On ne connaît pas toujours les voies de Dieu ou on n'est pas familier avec. Et ça nous amène à régler nos choses comme nous, nous voudrions les régler. Mais comment est-ce que je peux connaître les voies de Dieu? Comment est-ce que je peux savoir où Dieu veut m'emmener? Ce n'est pas en écoutant à la télévision ou à la radio les conseils qui sont donnés là, hein? C'est en prenant les Saintes Écritures, en les lisant, puis en les appliquant pour vos vies. Et c'est là que vous allez voir que Dieu va vous diriger. Il va vous conduire sur ce sentier dans lequel il veut que vous marchiez. Un cinquième point, eh bien, c'est l'ignorance de la volonté de Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse dans une telle situation? Est-ce que c'est notre prière? Peut-être qu'un frère ou une sœur qui est en train de m'humilier, elle me dit des choses qui ne sont pas agréables et qui m'abaissent, qui m'humilient. Alors, Seigneur, c'est quoi ta volonté là? C'est de lui répondre coup sur coup ou si c'est d'être semblable à toi? Lorsqu'on a amené Jésus et qu'on l'a accusé de toutes sortes de choses, est-ce que Jésus s'est mis à contester et à dire non, écoutez, je suis un homme juste, je suis une personne de bien, j'ai ressuscité des morts, j'ai nourri des personnes, j'ai fait des miracles. Hein? Non, le Seigneur n'a pas détalé tout ce qu'il avait fait. Le Seigneur est demeuré humble et il n'a point ouvert la bouche, s'en remettait totalement à son Père céleste. Quelquefois, nous, on n'est pas du tout comme cela, mais que le Seigneur nous parle ce matin. La sixième chose, l'impulsivité, être impulsif. On saute sur l'occasion, hein? Je ne peux pas attendre, puis surtout, je ne veux pas attendre. Ce frère a essayé de m'abaisser, mais moi, je vais me relever. Non. Peut-être que le Seigneur est en train de te dire, Jean-Louis, je me sers de ce frère ou de cette sœur hein, pour t'humilier, parce que c'est le seul moyen que j'ai. Hein? Parce que comment est-ce que le Seigneur va agir avec nous? Il ne viendra pas aujourd'hui présent, mais il est en chacun de nous et il va se servir de nous. La même chose qu'il se sert, hein? Quand un jour on va arriver devant lui et qu'on va dire, « Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour toi? » Seigneur, hein, à un moment donné, il dit dans les Évangiles, « Lorsque le monde était pauvre, tu as pris soin d'eux, tu as fait toutes ces choses. » Puis le monde dit, « Mais Seigneur, je ne t'ai jamais fait ça à toi. » Puis le Seigneur dit, « Quand tu l'as fait à un de mes enfants, c'est à moi que tu l'as fait. Faisons attention à notre caractère, à ce que nous reflétons. Parce que vous savez, il y a des âmes, des fois, puis des frères qui sont blessés amèrement à cause de mon attitude. Parce que j'ai été trop vite à accuser, à donner une réponse, à faire ce que le Seigneur ne voulait pas que je fasse. Et notre septième et dernier obstacle, ce sont des motifs impurs, la cupidité, la convoitise. Dieu ne bénit pas si nous nous élevons en ayant des motifs impurs. Et les leçons pour chacun de nous que nous avons à apprendre, c'est de nous examiner pour voir s'il n'y a pas de l'orgueil ou de l'arrogance dans nos vies. Moi, je ne vous connais pas tous. Il y en a quelques-uns que je connais depuis nombre d'années. Mais on ne se connaît pas complètement au fond de nos cœurs. Alors moi, je ne sais pas. Examinez-vous au fond de votre cœur et demandez-vous, est-ce qu'il y a, Seigneur, de l'orgueil, de l'arrogance? Venons à Dieu dans une attitude de soumission totale. C'est comme cela qu'on va plaire à Dieu. Et prions, Seigneur, nous croyons que tu agiras selon tes promesses. Et acceptons d'abandonner nos désirs, nos volontés, nos plans, parce que lui, il est plus sage que nous. Seigneur, à cause de ton amour pour nous, tu agiras en notre faveur. Et l'invitation et la prière qui est faite, humilions-nous devant lui et croyons qu'il nous élèvera au temps convenable. Et je termine par ce dernier bout de phrase en disant, soyons comme notre Seigneur, doux et humble de cœur. Vous savez, ça c'est un combat journalier, constamment. Vous allez être tenté de vous élever par vous-même. Mais dites, Seigneur, je veux être comme toi, doux et humble de cœur. J'espère que ce matin, le Seigneur a parlé à chacun de vos cœurs. Et que votre désir, c'est d'être comme lui. Il n'y a pas de plus belle personne. Tu sais, vous avez des fois, on rencontre des belles personnes, souriantes, agréables. Mais la plus belle personne que nous connaissions, et puis j'espère que c'est cela pour chacun de vous, hein, c'est la personne du Seigneur Jésus. Il ne change pas. Vous savez, des belles personnes, des fois, des journées, peuvent changer de caractère, changer de figure, mais lui ne change pas. Puis c'est ça qui est beau. Il est doux et humble de cœur. Il est prêt à entendre notre voix, lui parler ce matin, puis lui dire, « Seigneur, peut-être que dans ma vie, je manquais d'humilité. Par ta parole ce matin, parle à mon cœur. Aide-moi à devenir de plus en plus humble. » On va prier ensemble. Notre Dieu, notre bon Père céleste, encore une fois ce matin, on s'est placé devant ta parole et c'est toi qui nous as parlé à travers ta parole. Nous qui nous servons de ta parole pour l'enseigner aux autres, ta parole nous dit que c'est une épée à deux tranchants. Elle est là aussi pour nous juger nous-mêmes, pour pénétrer en dedans de nous, pour enlever, Seigneur Dieu, ce qui ne te plaît pas, ce qui ne fait pas ta gloire. Seigneur, c'est un grand sujet que l'humilité. C'est une chose qui est si difficile à parvenir, mais nous savons que tu vas nous aider, parce que c'est ton désir qu'on devienne de plus en plus semblable à ce Fils bien-aimé. Merci parce qu'il est un jour parti de ce ciel merveilleux, qu'il a pris cette forme humaine, un homme semblable à nous, mais sans le péché, un homme qui a vécu dans cette pauvreté, méprisé, rejeté par les hommes, mais rien ne l'a arrêté. De ce plan que tu avais préparé déjà d'avance pour nous sauver, Fais en sorte, Seigneur Dieu, que tous ceux et celles qui sont ici ce matin puissent t'avoir accepté dans leur cœur comme leur sauveur, mais aussi comme le Seigneur de leur vie. Et pour nous qui sommes chrétiens, aide-nous à nous humilier. Transforme, change dans nos vies ce qui ne te plaît pas. Enlève, Seigneur Dieu, toute chose qui n'est pas bonne et remplace-la par ce fruit de l'Esprit que ton propre Fils a manifesté. Aide-nous à le manifester autour de nous, dans notre Église, dans notre Assemblée, dans nos familles, dans nos contacts et dans ce monde qui ne te connaît pas et qui s'en va loin de toi pour l'éternité. Seigneur, sauve encore d'autres âmes qui sont perdues dans ce pauvre monde. Montre-leur ta vérité, sers-toi de nous, par nos vies, qu'ils puissent voir qu'on te suit, qu'on ne suit pas une religion, mais qu'on est vraiment en relation avec ce Fils bien-aimé et avec toi-même. Bénis chacun de nous, bénis ceux qui souffrent dans cette assemblée, ceux qui sont malades. On te prie de les relever, de les accompagner, de soulager leurs douleurs. Et manifeste ton amour envers chacun de nous, jusqu'au jour où tu vas nous prendre. On te demande ces choses en ton nom et pour ta plus grande gloire. Amen.